Capital sur Radio Grand Ciel. C'est une émission que je présente moi-même, donc au micro Elisabeth Couget
et Christine Affotard,
qui a préparé cette visite que nous vous proposons aujourd'hui du côté de la Méditerranée. Et nous allons en Tunisie découvrir la capitale de la Tunisie, qui s'appelle donc Tunis.
Dont la situation géographique est exceptionnelle, puisqu'elle est face à l'Italie, à seulement 140 km de la pointe ouest de la Sicile. La Tunisie, tu sais, c'est un tiers de la France. Et donc, Tunis est au nord de la Tunisie, le long d'un golfe, ce qui fit de la ville un point de passage obligé des conquérants et des navigateurs. On peut dire un carrefour entre l'Orient et l'Occident, aux marches de l'Afrique.
C'est joliment présenté, tout ça. Alors, peux-tu nous la présenter, cette ville, en quelques mots en...
Donc, voilà. Tunis est une ville mosaïque, on peut dire, de 1 200 000 habitants, et qui a un vrai charme et une personnalité authentique.
Pourquoi mosaïque?
Eh bien, mosaïque, car il y a, en fait, donc deux villes au moins, une ville moderne aux immeubles de style colonial, mais aussi une extraordinaire médina et tout près les sites de Carthage, Sidi Bou Saïd, La Marsa, Gamarthe, qui s'égrènent le long de la côte méditerranéenne. Je me souviens enfant d'un livre d'images qui s'appelait « Tunis, les mille et une merveilles ».
Oui, parce que tu as vécu à Tunis.
Oui, 4 ans.
Donc il y a... Qui pourra nous mieux la présenter cette ville que toi? Alors malheureusement, les touristes s'y arrêtent peu finalement dans cette ville de Tunis. Ils filment plus au sud, vers les plages, ils cherchent le soleil. Pourtant à Tunis, il y a du soleil, mais ils cherchent le bord de la mer, j'imagine. Ils vont à Djerba. Bon, c'est dommage que cette ville mérite certainement plus que ça. Alors à quand remonte la fondation de la ville de Tunis?
Tunis devient capitale qu'à partir du XIIIe siècle. Mais c'est une cité dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, peuplée de marins et de marchands phéniciens, mais une cité marginale qui vit dans l'ombre de Carthage, sa prestigieuse voisine qui n'est qu'à quelques kilomètres.
Ah, Carthage, une très ancienne cité, empire, rival de Rome.
Carthage qui fut fondée en 814 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 60 ans avant Rome, par Didon, une princesse phénicienne. C'est du moins ce que nous raconte le poète Virgile dans l'Énéide. Des marchands s'y installent et ce simple comptoir phénicien va passer en quelques siècles au rang de puissance commerciale et militaire tellement importante qu'elle est prête à remettre en question la Pax Romana, la paix romaine, qui régnait alors sur tout le bassin méditerranéen.
Alors elle a fait beaucoup d'ombre à Rome,
elle fait de l'ombre à Rome, exactement, et Rome s'inquiète et s'exaspère. Le beau roman de Flaubert, Salammbô, évoque cette l'illustre cité antique de Carthage et commence ainsi « C'était à Hamilcar, faubourg de Carthage ».
Mais alors avec les guerres puniques, ça va mal se terminer.
Oui, tu te souviens, les guerres puniques, dures à prendre.
Que je n'ai pas trop aimé.
Bon, il faudra 3 guerres puniques sur 1 siècle pour que Rome vienne à bout de Carthage. Dans la deuxième guerre punique, en 218 avant Jésus-Christ, Hannibal, le fils d'Hamilcar, franchit les Alpes avec une quarantaine d'éléphants, menaçant Rome, et cette traversée épique inspirera nombre d'artistes. Et même Napoléon.
Bon, sans les éléphants.
Oui.
Et Rome, alors, comment ça va?
Alors, à Rome, Caton l'Ancien n'a de cesse de répéter dans tous ses discours comme un leitmotiv, il faut détruire Carthage. Ceux qui ont fait du latin, c'est l'exemple type de l'obligation du gérondif, Carthago delenda est, il faut détruire Carthage.
Et... Alors en tout cas, je pense qu'il y a eu quand même 3 guerres puniques.
Oui, mais qui s'achèvent donc par la destruction de Carthage finalement en 146 avant Jésus-Christ. Après 3 ans de résistance héroïque, Carthage est brûlée, rasée, réduite en cendres, recouverte de sel et dédiée aux enfers.
Bon. C'est épouvantable.
Épouvantable. Un destin qu'on peut comparer à d'autres villes martyres comme Pompéi sous la lave du Vésuve. Mais César et Auguste jettent les bases d'une nouvelle ville. Carthage renaît de ses cendres, devient capitale de l'Afrique romaine, puis de l'Afrique chrétienne, et va vivre une nouvelle ère de paix et de prospérité, jusqu'à ce que la conquête arabe ne l'anéantisse à nouveau en 698.
Finalement, c'est rassurant parce que, bon, pour Pompéi, c'était la nature, mais là, c'est l'homme qui a détruit, et finalement, ça a permis de renaître tout ça. Espérons donc...
Comme un phénix.
Exactement, que ça peut faire dans d'autres cas pareil.
Espérons-le, voilà. Oui.
Exactement. Donc, après le Carthage et les guerres puniques, le Carthage romaine qui viendra, qui, comme Rome, va devenir chrétienne.
Oui. Au concile de Carthage, en 411, assiste d'ailleurs saint Augustin, cette grande figure de la théologie chrétienne.
Et après, où est-ce qu'elle est née, saint Augustin, en fait? Pourquoi
saint Augustin,
tu en parles? Pourquoi qu'elle est née en Algérie? Enfin, oui. L'Algérie de nos jours.
Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, il a connu une jeunesse houleuse et influencée... par sa mère sainte Monique, il décide de se convertir, il est baptisé en 387 et il enseigne à Carthage qui devient un centre spirituel après la prise de Rome par les barbares en 410. Donc Carthage est très marqué par le christianisme. Et saint Augustin a beaucoup marqué la religion chrétienne par sa puissance intellectuelle, par ses sermons, par ses écrits, les confessions qu'on lit toujours.
C'est ça.
Carthage à son tour, malheureusement, sera prise par les barbares, les Vandales, en 439, puis passera sous l'autorité de Byzance en 533.
Alors, que reste-t-il de nos amours mouvementés? Oui, non, j'ose pas, nous sommes à Tunis.
D'accord.
On n'est pas à Paris. Donc voilà, alors que reste-t-il finalement du passé mouvementé et glorieux de Carthage?
En fait, pas grand-chose. Mais la visite de Carthage reste un moment fort d'un séjour à Tunis. Des vestiges éparpillés, quelques ruines impressionnantes, du passé légendaire demeure avant tout un site grandiose.
Alors, qui est... sachons-le, classé au patrimoine de l'UNESCO.
Mais oui,
tout comme la cathédrale de Chartres.
Oui, et ces ruines sont essentiellement les ruines de la Carthage punique. Carthage égale Carthage, Carthage.
Voilà qui explique son nom.
Voilà, et ces ruines sont cachées aujourd'hui au milieu des villas et de la verdure. Il y a principalement le Tophet de Salambo, c'est-à-dire le sanctuaire du dieu Baal et de la déesse Tanit. C'est le plus ancien lieu de culte punique de Carthage. Il est situé dans un cadre calme et serein au milieu d'un très joli jardin. Mais on y pratiquait, dit-on, horreur absolue, des sacrifices d'enfants auxquels Flaubert fait allusion dans Salambo.
Ben, j'ai bien fait de ne pas aimer les guerres puniques et
voilà.
Les punes.
Mais c'était de la propagande.
D'accord, c'était pas la vérité alors. Alors, qu'évoquent les bandes destinées d'Alix, n'est-ce pas?
Oui, Jacques Martin.
Rien à voir avec notre chanteur. Et comme par exemple l'île maudite et le spectre de Carthage.
Voilà, on évoque aussi ces sacrifices. Mais en fait, c'était une pure invention. Il s'agissait d'une propagande romaine très efficace, destinée à horrifier les Romains et les amener à accepter l'effort de guerre. Ça ne te rappelle pas quelque chose?
Si, les bouches, l'Irak.
George Bush, l'Irak, etc. Toujours la même chose.
Exactement. Alors, toute proche de là, il y a la colline de Birsa, puisque revenons à Tunis, qui va offrir une vue splendide sur Carthage et la mer.
Voici comment la décrit Chateaubriand. Du sommet de Birsa, l'œil embrasse les ruines de Carthage. Je les vis à mois de février. Les figuiers, les oliviers et les caroubiers donnaient déjà leurs premières feuilles. De grandes angéliques et des acanthes formaient des touffes de verdure parmi les débris de marbre. Au loin, la mer, des îles lointaines, des lacs bleuâtres, des montagnes azurées. Je découvrais des forêts, des vaisseaux, des aqueducs, des villages maures, des minarets, et les maisons blanches de Tunis.
C'est absolument magnifique. On aurait eu envie d'accompagner Chateaubriand pour aller voir comme ça, de la même façon. Alors, ça y est, arrêt sur image. Restons sur cette belle image de maisons blanches aux portes bleues. Et pour nous, le temps est venu pour marquer une pause. On écoute un extrait de Maalouf, une musique typiquement tunisienne, d'origine arabo-andalouse,
joué à Loud, qui est un luth oriental, et au kanoun, la sitar.
Voilà, alors écoutons ça. Thank you. dans notre émission Capitale, nous visitons Carthage actuellement et nous étions sur la colline de Byrsa où se dresse aussi la cathédrale Saint-Louis.
Qui rappelle le souvenir de l'ancien roi de France, Louis IX, Saint-Louis, mort de la peste le 25 août 1270 devant Tunis au cours de la 8e croisade.
Alors quelle idée irréfléchie d'ailleurs de partir en guerre en août dans l'humidité, la chaleur étouffante de l'été. Ça me rappelle encore Napoléon.
Napoléon et le général Hiver en Russie, voilà. On ne tient pas compte des éléments.
Non, puis... absolument pas, j'ai l'impression.
Et puis, c'est la défaite. En 1850, le bey de Tunis autorisa Louis-Philippe à édifier au milieu des ruines de Carthage un monument commémoratif à Saint-Louis. Et en 1890, le cardinal Lavigerie fait construire sur la colline de Byrsa la cathédrale Saint-Louis, magnifiquement située. Aujourd'hui, face à la cathédrale, un peu comme un défi, se dresse l'imposante mosquée construite par le président Ben Ali en 2003.
C'est un peu normal.
C'est normal, mais oui.
Du moins, ça ne va pas plus
égalité,
loin.
Voilà.
Alors, c'est intéressant. Il y a aussi il y a quelque chose qu'il faut absolument visiter, c'est le musée national de Carthage.
C'est intéressant aussi. Il est dans les bâtiments de l'ancien couvent des Pères Blancs et il présente de belles collections de l'histoire de Carthage, d'importants restes de l'époque punique et aussi d'ailleurs des personnages qui ont été restitués à partir de tout petits éléments et qui sont d'un réalisme impressionnant. En fait, des témoignages émouvants de cette civilisation détruite brutalement.
Il y a aussi les thermes, parce qu'il y a de l'époque
d'Antonin. Bien sûr, comme une ville romaine, normale.
Absolument.
Les thermes d'Antonin, construits entre 145 et 162, et aussi splendides, paraît-il, que les thermes de Caracalla à Rome. Et aujourd'hui, sur plus de 4 hectares, ces ruines constituent le site le plus prestigieux de Carthage. Et il y a aussi le théâtre, construit sous Hadrien, et restauré, et ce théâtre accueille chaque année le Festival culturel international de Carthage.
Donc Carthage revit finalement.
Mais oui.
Alors en 698...
Il faut sauver Carthage.
Oui, il faut sauver, voilà, il ne faut pas le détruire, il faut le sauver. Alors en 698 arrivent donc les Arabes, comme un peu partout, et qui mettront un point final à la gloire
et
de
Carthage.
Et oui,
terminé. Carthage ne devient plus qu'une carrière de marbre à ciel ouvert, pour les monuments musulmans de Tunis.
Voilà, ça a été utilisé, effectivement. Ouais. Alors, en fait, sur cette terre, se sont succédé 2 millénaires de présence étrangère, les Phéniciens, les Romains, les Arabes, etc.
Mais aussi,
etc.
bien d'autres, les Turcs et aussi les Andalous, c'est-à-dire les musulmans et les juifs chassés d'Espagne par la Reconquista après la chute de Grenade en 1492. Uh-huh. Et en fait, ces Andalous, entre guillemets, arrivent en foule à Tunis où ils apportent leur technique, comme l'irrigation, mais aussi leur savoir-faire artistique, la céramique et cette musique, le malouf, dont on a entendu un extrait. Tunis est devenue capitale au XIIIe siècle sous le règne des Hafsides et du XIIIe au XVe siècle, c'est l'âge d'or de Tunis.
Voilà. Et ensuite, ça dure comme ça jusqu'à la prise de Tunis et le sac de la Médina par les troupes de Charles Quint en 1535.
Et Tunis passe ensuite sous le contrôle des Ottomans. Tu te rappelles la chute de Byzance en 1453. Voilà. Et puis bien plus tard, en 1881, sous tutelle française, puisque le traité du Bardo établit le protectorat français avec un bey, donc un souverain vassal. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Tunisie est le dernier bastion nazi en Afrique du Nord à être libéré en mars 1943 par le général Patton et le maréchal Montgomery.
Et enfin, on est en 1955, l'accès à l'indépendance et l'avènement du président Habib Bourguiba.
Habib Bourguiba, qui est président de la République tunisienne pendant 30 ans, de 1957 à 1987, et qui fait de son pays une nation ouverte et tolérante. On le surnomme le combattant suprême, le père de la nation. En tout cas, il fait voter un code particulièrement moderne sur le statut des femmes, puisque la femme tunisienne devient l'égale de l'homme et n'a plus à porter le voile. C'est atterrant aujourd'hui de voir le rétro-pédalage actuel avec ces campagnes salafistes, violentes ou insidieuses, enjoignant de porter le voile.
Absolument, mais on les voit ça malheureusement. Voilà, 50 ans plus tard. Pas uniquement en Tunis, malheureusement. Ouais. Alors promenons-nous maintenant dans Tunis en commerçant par la Médina.
Commençons par la Médina, qui est exceptionnelle. Un monde à elle toute seule, l'une des plus belles et des plus importantes Médinas d'Afrique du Nord. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, autrement dit la même année que la cathédrale de Chartres et que le Mont Saint-Michel, mettre sur le même plan. Donc
absolument, c'est important.
Et oui.
Alors, elle est dominée par le minaret de la grande mosquée qui est haut de 44 mètres.
Voilà, c'est le minaret de la mosquée Zitouna, dite aussi mosquée de l'Olivier, car elle fut fondée, dit-on, sur l'emplacement d'un olivier géant en 732, Charles Martel.
Ah, exactement.
La grande mosquée compte 180 colonnes et chapiteaux qui proviennent presque toutes, on peut dire presque toutes, pillées sur le site de Carthage.
Ou récupérées.
Récupérées, ah, bon, d'accord.
Alors.
Et sais-tu, Elisabeth, que le mot minaret signifie « lieu de lumière » et que c'est le même mot que menorah, le chandelier à sept branches de la religion juive.
Ah oui, menorah, minaret, d'accord.
C'est le même mot.
C'est incroyable, hein. J'adore ça quand on découvre comme des rapprochements mots qui donnent des bonnes.
Oui. Alors la Médina, bien sûr, c'est un vrai labyrinthe, avec des ruelles sinueuses, des passages voûtés, des mosquées, des médersas, des tombeaux, des souks, de vieux palais qui retrouvent peu à peu leur lustre. Et on entre dans la Médina par la porte de la mer, Bab el-Bahr, dite aussi porte de France, et on est aussitôt transporté dans la délicieuse atmosphère de la Médina de Tunis. La blancheur des terrasses, l'odeur des cuirs, des épices, des parfums.
Je les sens, j'ai l'impression d'y être. Alors. Et ces belles maisons qu'on appelle les dars, qui se cachent derrière les lourdes portes ouvragées.
Alors oui, ces portes sont souvent jaunes, de la couleur sacrée du Coran, et elles sont ornées de clous, qui sont souvent en forme de signes religieux, comme des étoiles, des croissants, et aussi parfois de croix, et même d'étoiles de David, censées protéger la maison et assurer le bonheur.
Ah, c'est super. C'est alors tout autour de la mosquée Zitouna, la mosquée de l'Olivier, donc, se trouvent tous les souks.
Oui, au total, une bonne dizaine de souks qui tissent comme une toile d'araignée autour de la grande mosquée. Alors, les échoppes sont étroites, les voûtes de briques percées de petites ouvertures laissent passer un peu de lumière. Les souks sont très ordonnés en cercles concentriques en fonction de leur respectabilité. Donc, d'abord, les métiers nobles, tout près de la mosquée, vendeurs de bougies, encens, étoffes précieuses, soieries, bijoutiers, libraires, relieurs.
Ah oui. Alors, il y a le souk Attarine, il me semble, qui est le royaume de la parfumerie.
Oui, et bon, son atmosphère suggère le luxe, le calme et la volupté. Tu viens Baudelaire.
Absolument.
D'un Orient de rêve. Et à chaque grande occasion est associé un parfum. Par exemple, pour les mariages, la fleur d'oranger. Pour les bébés, le géranium. Pour les fêtes religieuses, l'ambre. Et pour les repas de fête, la rose.
La rose, alors. Alors maintenant, si nous nous attardions un petit peu dans la Médina pour déguster une brique.
Oui.
C'est une crêpe très fine que vous connaissez très certainement, pliée en deux, frite avec à l'intérieur un œuf ou du thon, ou des oignons, persil ou citron, voilà.
Voilà, accompagnée d'un thé à la menthe, avec en fond sonore encore un air de Malouf qui s'intitule justement La Médina.
Alors écoutons ça. Écoutez Radio Grand Ciel et notre émission Capitale. Nous venons de déguster un thé à la menthe avec un briquet à l'œuf, n'est-ce pas Christine? Parce que nous nous trouvons à Tunis aujourd'hui.
Dans les souks.
Et dans les souks. Alors nous, nous sommes dans la Médina bien entendu et nous venons de voir les métiers nobles dans les souks. Et maintenant on approche de la souk où on vend de la laine, des babouches.
Alors un petit peu plus loin, voilà, les souks de la laine, les souks des babouches. Les souks, le souk des Chechia, il se trouve dans un décor peint et sculpté du XVIIe siècle. Et les Chechia sont ces bonnets ronds de laine rouge importés aussi...
Avec un petit pompon.
Oui, exactement. Importés aussi par les Andalous. Leur technique de fabrication est très proche du béret basque. Cardage, teinture, mise en forme dans des presses. Et puis alors, à la périphérie des souks, on trouve enfin les souks bruyants ou malodorants.
Ah, ok, sympa. Voilà, bon. Comme, alors, comme les forgerons, j'imagine, ou les potiers, les étameurs, les teinteurs, surtout les tanneurs, ça sent pas bon.
Oui,
hein.
Tout ce qui fait du bruit, qui sent
teinturier, etc.
Les tanneurs. Et puis alors, hors les murs, les poissonniers, les bouchers, les souks de légumes. À ne pas manquer dans la Médina non plus la mosquée de la Casbah. Elle est vraiment originale par la richesse et le style de son décor 17e. Il y a aussi à voir le palais d'Ar Othman, qui est un havre de paix et de verdure, ou encore la très belle place Alfaouine, bordée de monuments et de cafés, et qu'évoque le joli film tunisien Alfaouine, l'enfant des terrasses.
Malheureusement, je ne l'ai pas vu.
Et puis, en fait, effectivement, Tunis est surnommée Tunis la Blanche à cause de la blancheur de ses terrasses qui étincellent au soleil.
Alors, en sortant de la Médina, nous entrons dans la ville coloniale.
Alors, cette fois-ci, immeubles à arcades, aux riches décors, balcons, corniches, pilastres, et puis des façades Art Nouveau comme celle du théâtre municipal où chanta Alexandra David-Nil. Et puis, dans les rues, les cireurs de chaussures, les vendeurs de jasmin. On peut faire une halte rue des Libraires au café Kalachine, qui d'ailleurs a aussi un hammam, ou au café de Paris, avenue Habib Bourguiba. Et au bout de cette avenue, Habib Bourguiba, près de la fontaine à la nuit tombée, des milliers d'oiseaux volent de tous côtés au-dessus des ficus centenaires.
Ça peut être féerique, ça. Alors, puis ils finissent par se poser, je suppose, quand même.
Dans un champ étourdissant,
ah oui, d'accord.
Voilà. Et puis, tout près, voici la gare. Alors, non pas la gare TGV, mais la gare TGM, qui existe depuis plus d'un siècle. TGM, c'est-à-dire Tunis, La Goulette, La Marsa.
Ah, voilà.
Le pittoresque train de bois s'est mué en RER.
Dommage.
Mais les gares, en bleu et blanc, sont toujours aussi charmantes et desservent les localités des environs de Tunis jusqu'aux belles plages de La Marsa et de Gamart.
Et commençons tout de suite, et tout près de Tunis, par le magnifique musée de Bardo, alors.
Le magnifique musée du Bardo, c'est un ancien palais du XIXe siècle qui abritait autrefois le harem des beys de Tunisie. Il est transformé en musée en 1892 et il est divisé en 5 départements qui correspondent aux grandes périodes de l'histoire tunisienne, c'est-à-dire préhistorique, punique, romaine, chrétienne, arabo-musulmane. Il témoigne en fait de l'inépuisable richesse archéologique de la Tunisie et surtout il présente une collection unique au monde de mosaïques antiques provenant de Carthage mais aussi des sites de Tuburbo-Majus, de Douga, de El Djem, de Boularedja en Tunisie.
Tout ça, c'est en Tunisie. Et ces mosaïques, qui datent de quelle époque ?
L'art de la mosaïque apparaît au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais il s'épanouit surtout au IIe siècle de notre ère. Le style des mosaïques tunisiennes est vraiment original. Il est marqué par la polychromie et l'extrême variété des décors. Les motifs sont liés aux légendes des dieux, comme par exemple, il y a l'immense mosaïque de Neptune qui fait quand même 137 mètres carrés.
Ah oui.
Neptune sur son char, tiré par 4 chevaux qui surgit de la mer. Vraiment, c'est d'une finesse extrême. Où on voit encore Vénus à sa toilette. Les mosaïques évoquent aussi la culture grecque et latine, tels le poète Virgile, assis, entouré des muses de la tragédie et de l'histoire.
Ça vous vient, Melpomène et Clio, n'est-ce pas ?
Bravo ! On voit aussi Ulysse.
Ouais, j'imagine, après tout ça, il manquait.
Voilà, Ulysse. On voit aussi Ulysse sur un bateau attaché à un mât pour ne pas succomber au chant des sirènes. Et puis d'autres mosaïques évoquent le cycle des saisons, des scènes de chasse et de pêche, le spectacle des Jeux Olympiques, des Jeux du cirque et également des épitaphes chrétiennes.
Alors, elles sont fabriquées avec des tesselles, c'est ça ?
Des tesselles, oui, c'est-à-dire de petits morceaux de pierre, de briques, de marbre ou aussi de pâtes de verre qui sont regroupés par couleur dans des paniers. Et on trouve aussi au musée du Bardo des bronzes et des marbres d'origine grecque qui ont été découverts par hasard en 1907 par des pêcheurs au large de Madia, sur la côte. Et Ces sculptures, ces bronzes, ces marbres proviennent de l'épave d'un navire qui datait du 1er siècle avant Jésus-Christ et on n'avait jamais retrouvé, et on n'a toujours pas retrouvé depuis, une telle collection d'œuvres d'art au fond de la mer.
Même pas sur le Titanic.
pas tellement d'œuvres d'art.
Ils avaient de belles choses quand même, mais bon, c'est pas pareil. Alors après la visite du Bardo, montons dans le TGM qui nous mène au nord de Tunis, sur la lagune, et on aperçoit encore parfois des flamants roses.
Et oui, des envols de flamants roses. Mmh. Alors voici la Goulette, le véritable port de Tunis. Il flotte à la Goulette un air de Sicile, avec son ambiance pittoresque et chaleureuse, et puis ses marchés multicolores. Et en fait, une vague d'immigration italienne s'est installée ici, fin 19e, dont par exemple la famille de l'actrice Claudia Cardinale.
Ah ben oui, c'est vrai. Mmh.
Et on vient surtout à la Goulette pour déguster un poisson à la terrasse d'un des nombreux petits restaurants.
Alors, saluons au passage Carthage, aujourd'hui paisible.
Enfin.
Et voilà, Amilcar aussi, Salambo, de vieilles connaissances. Et descendons à Sidi Bou Saïd, un ravissant village percé sur une colline.
Sidi Bou Saïd, un balcon sur la mer, le plus beau des villages de Tunisie. Il a attiré et conquis des générations d'artistes et d'écrivains. C'est un éblouissement, une parfaite harmonie de bleus et de blancs où courent les bougainvillées. C'est un village dit maraboutique, car fondé par un saint au XIIIe siècle, le mystique Bou Saïd. Alors Sidi, ça veut dire saint, donc Sidi Bou Saïd, voilà. Et on peut comparer Sidi Bou Saïd à, par exemple, Saint-Paul-de-Vence ou à Saint-Tropez. Les ruelles montantes sont bordées de charmantes maisons blanches, aux portes d'un bleu lumineux, et aussi d'un bleu lumineux, les moucharabiers et les carrages. Tu sais, ce sont ces grilles renflées comme des dentelles
devant
métalliques.
Devant les fenêtres.
Voilà, devant les fenêtres. Mmh. Et les maisons cachent des jardins secrets, des jardins somptueux aux parfums de figues et d'eucalyptus, ou aussi de petits cafés paisibles.
Alors, ça, tout ça, c'est magnifique, mais poussons par exemple la porte pour voir un peu l'intérieur de cette belle maison traditionnelle d'Arel Anabi, qui est une, voilà, on voit une chambre d'été pour la sieste, une salle de prière familiale, un salon d'amis de style mauresque, et puis le jardin andalou, la bibliothèque, ses anciens ouvrages manuscrits par chemin.
Voilà, et puis là-bas, le café des Nattes, du haut de ses marches, il date du XVIIIe siècle. Voilà. Et c'est un lieu de rendez-vous obligé.
C'est où... trop beau, mais on va être obligé.
Attends, je
de
dis,
terminer.
Ou juste le café Sidi Cheban, le café des délices qui surplombe le port. Et la baie de Tunis, quel beau spectacle, surtout le soir face au soleil couchant.
Oh, ça doit être magnifique. Alors écoutons peut-être. Le café des délices,
chanté par Patrick Bruel, voilà.
En quittant, merci de nous avoir écoutés.
Avant
merci Christine
de vous dire
pour
au
cette
revoir.
Belle histoire de Tunis.
Merci
à bientôt.
Merci Elisabeth. Au revoir.
Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, yalil, bibi yalil. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port-El.